Dans cette deuxième partie, consacrée aux mobilisations féministes internationales et transnationales, nous allons adopter une perspective du temps long, historique, pour dénouer les dynamiques féministes des 19e et 20e siècles. Millicent Garrett Fawcett, une militante suffragiste britannique, avait ainsi déclaré en 1913 « Le mouvement des femmes est l'un des événements les plus énormes de l'histoire du monde » et nous allons voir effectivement comment cet énorme événement de l'histoire du monde s'est déroulé au XIXe et XXe siècle. On a l'habitude d'utiliser deux types de métaphores pour qualifier les dynamiques des mouvements féministes. On parle de vagues, première, deuxième, troisième vague. D'autres historiennes parlent également d'éruption. Ce qui est certain, c'est que qu'on adopte une métaphore volcanique ou maritime, eh bien, il y a un caractère éminemment relationnel et politique des revendications autour des droits des femmes. Les avancées féministes ne sont pas dues au triomphe simplement d'une argumentation, mais le résultat de mobilisations féministes et d'échos dans le monde politique et social, et c'est ce que nous allons voir. Arrêtons-nous maintenant donc sur la naissance et la diffusion du terme féminisme. C'est un terme qui est au départ issu du vocabulaire médical du XIXe siècle et qui ne désigne pas les mouvements en faveur de l'égalité entre les sexes, mais plutôt un homme efféminé, un homme qui présente des caractéristiques physiques dites féminines ou en tout cas non viriles. Le terme féminisme au sens de mouvement d'émancipation ou d'égalité entre les sexes va apparaître en 1870. Et c'est sous la plume d'Alexandre Dumas fils qu'en 1872 est forgé le terme féministe. Voici ce qu'écrit Alexandre Dumas fils en 1872 dans un petit texte un peu pamphlétaire qui s'appelle « L'homme-femme ». Les féministes, passez-moi ce néologisme, disent à très bonne intention d'ailleurs, « Tout le mal vient de ce qu'on ne peut pas reconnaître que la femme est l'égale de l'homme. Nous nous permettrons de répondre aux féministes que ce qu'ils disent là n'a aucun sens. » La femme n'est pas une valeur égale, supérieure ou inférieure à l'homme, elle est une valeur d'un autre genre, comme elle est un être d'une autre forme et d'une autre fonction. Et il poursuit plus loin, « Ce n'est donc pas parce que nous lui donnons l'éducation qu'elle reçoit que la femme est ce qu'elle est. C'est parce qu'elle est ce qu'elle est que nous lui donnons l'éducation qu'elle reçoit. Et quand elle se prétend capable d'édicter des lois, de commander des armées et de conduire des locomotives, elle est aussi ridicule que le serait le sexe fort s'il voulait porter des chignons, montrer ses épaules et allaiter des enfants. Vouloir réunir les deux natures en une seule, ce serait de l'hermaphrodisme, qui est l'impuissance mâle et femelle. » Alors les termes d'Alexandre Dumas fils sont au départ hostiles à l'idée d'égalité entre les sexes. C'est donc un terme antiféministe qui va être finalement très vite réapproprié par les féministes. Hubertine Auclert, la première suffragiste française, qui est une pionnière, reprend le terme en 1882 dans son journal La Citoyenne, en faisant un mot qui désigne justement les combats pour l'émancipation des femmes. Hubertine Auclert, c'est une personnalité extrêmement intéressante, une féministe qui a donné sa vie à ces combats, qui est allée jusqu'à pratiquer des méthodes militantes assez originales, comme la grève de l'impôt en 1880, puisqu'elle était, les femmes avaient le droit de payer, enfin le devoir de payer des impôts, et elles auraient aimé avoir les droits qui allaient avec. Donc, puisqu'elles payaient des impôts, comme elles venaient d'une famille riche, eh bien, elle a décidé de faire la grève de l'impôt avec un slogan assez simple, « Je ne vote pas, donc je ne paye pas ». Ce terme va se diffuser dans le monde assez rapidement. Dans les années 1890, il se diffuse sur plusieurs continents, dans le monde anglo-saxon, en Angleterre, aux États-Unis, mais aussi dans le monde hispanique, comme en Argentine ou à Cuba. Et puis, dans la décennie 1900, il se diffuse aussi en Europe, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Grèce, en Italie, en Russie également, et puis ensuite dans des langues non occidentales comme l'arabe ou le japonais. C'est un terme qui est souvent accompagné d'adjectifs pour rendre compte des différents courants. On parle de féminisme radical, de féminisme réformiste ou de féminisme modéré. Dans le monde occidental, mais pas seulement, les mots féminisme et féministe désignent aujourd'hui à la fois les idées en faveur de l'émancipation des femmes, les mouvements qui en ont embrassé la cause et les individus qui l'ont défendu. Et dans le monde anglophone, cependant, peu de gens savent que ces termes ont fait leur apparition à la fin du XIXe siècle dans le discours politique français. Et le terme féminisme était à cette époque communément employé comme synonyme d'émancipation des femmes. Cette diffusion du terme, elle s'accompagne d'autres courants, notamment en France, les trois courants féministes radicales, réformistes et modérées. On va les retrouver au sein des combats féministes larges qui vont se fédérer, et on distingue deux grandes tendances. Les féministes égalitaristes qui veulent l'égalité en droit entre les femmes et les hommes et qui considèrent que ce sont des individus avant tout. Et puis un courant différentialiste qui est rattaché à une conception plus traditionnelle et qui considère qu'il existe une forme de nature, d'essence féminine, mais qui ne doit pas empêcher d'obtenir des droits égaux. Alors, ces tendances égalitaristes et différentialistes ont pu bien évidemment se disputer, s'affronter, mais elles se sont regroupées autour d'un intérêt commun qui était celui de la première vague féministe, hein, qui est apparue dans les années 1870 et qui a été en activité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, autour de la question des droits civils et politiques des femmes. Il y a aussi au sein des féministes radicales une autre frange qu'il est important de connaître, c'est la frange qu'on peut appeler anticonceptionnelle, c'est-à-dire un courant engagé en faveur de la maîtrise de la fécondité. On utilise ce terme anticonceptionnel, aujourd'hui on parlerait davantage de contraception, hein, mais à l'époque c'est le terme utilisé, on parle de méthode anticonceptionnelle et abortive, donc pour prodiguer des avortements. On a ici Nelly Roussel avec sa petite fille, qui est une de ses pionnières, et à droite, Jeanne Imbert, qui avec son époux Eugène, eh bien, a organisé des tournées de conférences, diffusé des brochures, et qui pour cela a connu plusieurs procès, parce que depuis 1920 en particulier, la loi française interdisait toute propagande anticonceptionnelle et abortive, ce sont les termes de la loi de 1920, et c'est à la faveur d'échanges internationaux et de tournées aussi internationales qu'ont été échangées à la fois des idées, hein, l'idée que le corps des femmes était un enjeu politique et que les femmes devaient en être les premières actrices, des formes de solidarité matérielle aussi, notamment pour récolter de l'argent pour soutenir les militants condamnés, et puis aussi la diffusion de pratiques. C'est ce qu'on a pu voir aussi avec le cas de Marie Stopes, qui est une pionnière du planning familial et qui a été reconnue a posteriori. On l'a ici hein, sur un timbre-poste qui a été édité. On a voilà à l'échelle de l'Europe en particulier des échanges entre les Anglais, les Néerlandais, les Belges et les Français. Et la diffusion d'objets va être extrêmement importante, notamment des objets qui sont donc illégaux en France, des PCR, des crèmes spermicides et la diffusion aussi de préservatifs. Alors la circulation internationale des idées et des pratiques féministes n'est pas uniquement une question de solidarité. On va le voir ici avec une petite histoire du 8 mars qui est au cœur en fait d'enjeux politiques du XXe siècle. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Journée internationale des droits des femmes, et pas la journée de la femme, comme on l'entend encore souvent dans les médias, c'est une date qui est inscrite à l'agenda des féministes, des institutions, mais dont les origines sont souvent méconnues et en tout cas, pendant longtemps, ont été un petit peu prises en étau entre le mythe et la réalité, au cœur d'enjeux qui dépassent les féministes, d'enjeux politiques du XXe siècle. Le 8 mars, en quelque sorte, a été un mythe qui a eu la vie dure. On a beaucoup raconté des légendes, et en particulier la plus tenace que René Côté a analysée en partant à la recherche un peu des origines du 8 mars, c'est l'idée d'une grève d'ouvrières du textile à New York le 8 mars 1857, et que cette journée du 8 mars célébrée serait un hommage à cette grève ouvrière de 1857. Sauf que cette journée de grève du 8 mars 1857, eh bien, on n'en trouve pas trace dans les archives. Alors, d'autres versions ont existé, hein, peut-être une grève de femmes en 1908. En tout cas, ce sont des grèves, en fait, imaginaires. Quand je dis qu'on n'en a pas trace, c'est que les archives n'en rendent pas compte. La presse de l'époque Il n'y a pas une ligne, y compris la presse syndicale et militante, et la presse féministe non plus. Donc c'est un peu un point d'interrogation sur ces grèves de 1857 et 1908. Il y a en fait une confusion et une méconnaissance au départ qui est liée à l'histoire féministe qui a longtemps été occultée. À défaut d'avoir une histoire, souvent on a des légendes. Cette date donc a longtemps eu un parfum de légende et je reprends une citation d'Adrienne Rich qui était une militante féministe et écrivaine qui indiquait dans un de ses livres en 1879 sur justement la question de l'invisibilité de l'histoire des femmes que la disparition du passé historique et politique des femmes fait en sorte que chaque nouvelle génération de féministes semble être une excroissance anormale de l'histoire. Donc on ne comprend pas d'où ça sort, mais ça apparaît. Donc cette date de 1857, pas de traces dans les sources américaines, pas de traces dans les journaux, aucune référence non plus dans les livres d'histoire du mouvement ouvrier aux États-Unis qui signalent d'autres grèves ou manifestations de femmes, et pour la petite histoire en plus, le 8 mars 1857 tombait un dimanche. Donc effectivement, ça devenait difficile de faire une grève un dimanche. Cette journée du 8 mars, en fait, elle a été instaurée en 1910 à l'initiative de femmes féministes socialistes. À l'occasion de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes, au cours du congrès de la deuxième internationale qui se tient à Copenhague au Danemark en 1910, Clara Zetkin, qu'on découvre ici, qui est une dirigeante socialiste allemande et féministe très engagée, eh bien, elle va faire adopter une résolution pour instaurer officiellement une journée de célébration, de combat des droits des femmes. Ce texte, en l'occurrence, qui est donc défendu à Copenhague en 1910, ne fait allusion à aucun 8 mars antérieur, ne fait pas allusion à l'idée, ce mythe d'une grève de femmes en 1857. Ce que Clara Zetkin, avec ses camarades socialistes, écrit en 1910, c'est « En accord avec les organisations politiques et syndicales du prolétariat, les femmes socialistes de toute nationalité organiseront dans leurs pays respectifs une journée des femmes spéciale dont le but premier sera de promouvoir le droit de vote pour les femmes. » Donc pas de référence à cette fameuse grève. Clara Zetkin, que certains historiens ont surnommée la féministe sans frontières, elle se bagarre un petit peu au sein du parti socialiste allemand. Et à Stuttgart, au moment d'un congrès international en 1907, elle se positionne par rapport justement à cette question du droit des femmes. Ce qu'elle écrit, c'est que le droit de vote des femmes, ça arme les femmes prolétaires dans la lutte qu'elles mènent contre l'exploitation et la domination de classe pour obtenir d'être reconnues comme des êtres humains à part entière. Donc elle inscrit le combat pour le droit des femmes dans un combat plus large pour l'émancipation et en particulier dans la lutte de classe, qui est donc le référentiel théorique de base de Clara Zetkin. En faisant voter donc une motion sur le vote des femmes et sur la stratégie à adopter pour les femmes socialistes, elle veut aussi se distinguer des autres courants féministes. On est vraiment là, au cœur des différentes tensions entre les courants féministes radicaux, modérés et réformistes. Et Clara Zetkin, c'est une révolutionnaire. Et elle vient dans ce conflit, en gros, entre lutte de femmes et lutte de classe. Et elle fait adopter donc en 1907 au congrès international du Parti socialiste à Stuttgart que les partis socialistes de tous les pays ont le devoir de lutter énergiquement pour l'introduction du suffrage universel des femmes. Et dans cette lutte pour l'égalité complète en matière de droit électoral, les femmes socialistes ne doivent pas s'allier aux féministes de la bourgeoisie qui réclament le droit de suffrage, mais avec les partis socialistes qui luttent pour le suffrage des femmes. Donc l'idée de capter, d'essayer de savoir un peu dans quel périmètre politique doit se situer, selon elle, les combats féministes. Alors, cette idée d'instaurer une journée pour célébrer, en tout cas promouvoir les droits et les combats des femmes, ça a tout de même une origine. L'idée de Clara Zetkin n'est pas tombée toute seule. Ça fait suite en fait au Women's Day qui avait été organisé par des socialistes américains et américaines en faveur du droit de vote des femmes en 1808 et 1809, le dernier dimanche de février. Et ces Women's Day sont justement de 1908 et 1909, sont cités dans la presse américaine. Là, on a une trace de ces événements. Mais ce n'est pas un 8 mars. Hein. On est sur le dernier dimanche de février. Donc, on a effectivement, à la naissance de ce 8 mars, des tensions au sein des socialistes, entre les femmes et les hommes, hein, de savoir est-ce que la question des femmes est une lutte principale ou une lutte secondaire, et puis donc entre des mouvements féministes ouvriers de lutte de classe et celles qu'elles considèrent comme des féministes bourgeoises. Alors, jusqu'en 1914, l'idée de célébrer une journée en faveur des droits des femmes n'a pas de date officiellement arrêtée. Pas de date commune non plus selon les pays. Des manifestations sont organisées en février ou en mars, mais pas de date commune. À partir de 1914, il va y avoir un début de fédération. On a ici une archive vidéo de manifestations féministes de 1914.
Mars 1914. Les femmes sont au travail, elles sont à la maison, elles sont dans la rue, mais elles sont encore loin des urnes. On se préoccupe des droits des travailleuses, travail de nuit et congé maternité, pourtant les droits des citoyennes n'intéressent pas les législateurs. Alors, un peu partout en Europe, les femmes descendent dans la rue. Ce 8 mars, le défilé du Frauentag est l'occasion pour les féministes allemandes de réclamer massivement le droit de vote. Radicales, les suffragettes britanniques multiplient les actions d'éclat, souvent violentes, sur la voie publique, ce qui les mène en prison où elles entament des grèves de la faim pour obtenir le statut de prisonnière politique. L'Union française pour le suffrage des femmes rassemble 9000 adhérentes et un grand défilé féministe est prévu pour juillet. Il aura lieu en l'honneur de Condorcet, penseur des Lumières et partisan de l'admission des femmes au droit de cité. Ce sera de fait la première journée de la femme en France. En Allemagne, elle existe depuis 1913.
La date commune du 8 mars, en fait, elle est fixée à partir de 1921-22, par l'Union soviétique, par l'URSS, qui va retenir la date du 8 mars en hommage aux femmes ouvrières qui ont manifesté à Petrograd en 1917, c'est-à-dire au tout début de la Révolution russe. Et c'est une date qui est choisie par Lénine lui-même, hein, comme un événement symbolique. Alors, sur l'idée de cette date du 8 mars, on a une féministe socialiste qui s'appelle Charlotte Perkins Gilman, qui va déclarer à l'occasion de la journée des femmes en 1912, pour justement justifier la pertinence de célébrer une journée de combat pour les combats pour les droits des femmes, pour que ses petits camarades hommes socialistes se rendent compte de l'importance de ces combats, eh bien elle va utiliser le renversement. Et ce qu'elle va leur dire, c'est imaginons la situation sociale actuelle en renversant les rôles. Les femmes possèdent, distribuent et administrent tout le capital et les industries. Dirigez maintenant votre regard sur Wall Street. Les capitaines de l'industrie et les habitués de Wall Street sont tous des femmes. Seules exceptions, quelques jeunes hommes, sténographes, qui bavardent et quelques hommes de ménage assez âgés avec leurs seaux et leurs balais. Cela vous permet de mesurer l'absurdité ridicule de la situation actuelle. Donc c'est pour cette raison qu'elle affirme qu'il est nécessaire de se mobiliser pour rendre visible justement cette situation inégalitaire entre les sexes. Alors si la date du 8 mars vient d'une décision de l'Union soviétique, eh bien c'est un élément qui pendant longtemps va déranger. Hein. On va taire pendant longtemps ses origines parce que ça peut apparaître comme problématique au regard de certains. Et les féministes et les socialistes des quatre coins du monde vont eux-mêmes entretenir le mythe des ouvrières américaines de 1857. Hein. On a ici une citation du bulletin de la Fédération internationale démocratique des femmes, donc qui est un organe socialiste édité à Berlin en 1966, donc en pleine guerre froide. Et ce que nous explique donc ce bulletin, c'est que le 8 mars 1857, un long cortège de femmes, pauvrement vêtues, défile dans la rue. Ce sont des ouvrières du vêtement et du textile dont les pancartes revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail et la reconnaissance de l'égalité des droits pour les femmes américaines. Les manifestantes seront piétinées, écrasées et plusieurs d'entre elles arrêtées. 1910, poursuit l'article, conférence des femmes socialistes, Clara Zetkin, cette femme indomptable, rappelle la lutte commencée 53 ans plus tôt par les femmes américaines et propose le 8 mars comme journée de lutte en souvenir de cette première révolte à New York. Donc ce que raconte en fait ce journal féminin et féministe socialiste, en fait, c'est une légende. Il n'y a pas de trace dans les archives. Et Clara Zetkin ne mentionne pas le 8 mars comme date à célébrer. Clara Zetkin n'est pas la seule à avoir porté l'idée d'une journée pour marquer les combats des droits des femmes. Il y a Alexandra Kollontai qui est russe et qui va être effacée de l'histoire de la Journée internationale des femmes. Alors elle est secrétaire du secrétariat international des femmes du Comintern en 1921-22. Et puis, comme c'est une femme forte, qui dérange aussi un petit peu, qui a des idées extrêmement aussi novatrices, notamment sur les questions sexuelles et affectives, sur les rapports entre les sexes, qui est jugée trop revendicatrice à l'égard du Parti communiste et un peu trop révolutionnaire. Elle a notamment publié un texte qui a été traduit en français qui s'appelle « Marxisme et révolution sexuelle », qui a été traduit seulement en 1979 en français et édité par les éditions militantes Maspero. Eh bien, elle est nommée ambassadrice de l'URSS à partir de 1923 jusqu'à la fin de sa vie. Elle sera ambassadrice, et ce qui permet donc de la tenir à distance un petit peu de ses combats. Mais il y a une question qu'on peut se poser et que pose aussi Liliane Candel, hein, qui est une historienne et féministe, dans la revue d'En Face en 1982, elle pose une question. Elle dit « A-t-il paru nécessaire de détacher la Journée internationale des femmes de son histoire soviétique pour lui donner une origine plus internationale, plus ancienne que le bolchevisme, plus spontanée aussi que la décision d'un congrès ou l'initiative de femmes affiliées à des partis ?» Parce qu'en fait, ces célébrations du 8 mars, elles vont être très marquées par le contexte de la guerre froide, et en France, elles sont notamment encadrées par le Parti communiste et par la CGT. Eh bien, voilà, l'idée qu'il fallait détacher, il y a eu en tout cas pour certains le souci de détacher de ce qui est effectivement à l'origine, hein, une décision prise par un congrès socialiste, et puis ensuite ancrée dans l'histoire du début de l'Union soviétique, eh bien, ça pouvait sembler clivant. Et en tout cas, pour l'intérêt de la cause, certains ont voulu, et la majorité, ont voulu reconstituer une légende pour tenir à distance le communisme de cette histoire, alors que la célébration du 8 mars est en plein dans l'histoire communiste. Ce mythe, donc, qui a été entretenu pendant longtemps aux quatre coins du monde, a connu une autre vie. C'est-à-dire que c'est une célébration qui a été reprise par les Nations Unies, hein, par l'ONU, en 1977. Donc à partir de 1977, le 8 mars devient une journée internationale. Alors au début, on dit journée internationale de la femme. C'est l'une des 87 journées internationales de l'ONU. Et cela fait suite, en fait, à la célébration en 1975 par les Nations Unies, qui vont décréter l'année 1975 comme année internationale de la femme. On a ici deux timbres postaux édités l'un en France, l'autre au Niger, qui traduisent justement cette année internationale de la femme. 1975 n'est pas un hasard, c'est aussi l'année où va se tenir, sous l'égide des Nations Unies, la première conférence mondiale sur les droits des femmes qui se tient à Mexico et à laquelle participent 133 États, et se tient en parallèle un forum associatif des ONG qui rassemble 4000 participants. C'est donc en quelque sorte une journée née au début du XXe siècle de la volonté de militantes progressistes, socialistes, féministes, qui va devenir une journée internationale institutionnalisée. Aujourd'hui, la journée internationale des femmes ou de la femme, selon les pays, est célébrée à travers le monde. C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leur réalisation, sans égard aux divisions, qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. C'est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées et surtout de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes. Ces termes, ce sont ceux des Nations Unies aujourd'hui pour désigner justement le 8 mars. Dans certains pays, c'est d'ailleurs un jour férié, notamment dans les pays marqués par une histoire socialiste, parfois un jour férié uniquement pour les femmes. En tout cas, il y a une ambiguïté qui demeure parce qu'on ne célèbre pas nécessairement les droits des femmes comme cela avait été conçu à l'origine. On ne célèbre pas forcément leurs combats et les luttes pour l'égalité. Mais parfois, on célèbre aussi les femmes et les mères sur fond d'essentialisme. Le cas, par exemple, de la journée du 8 mars au Cameroun en est une illustration où c'est une espèce de fête des mères où on glorifie non pas les combats des femmes et les droits des femmes, mais le féminin, les mères, etc. Alors on va passer à une deuxième partie sur l'effervescence féministe de ses débuts en Europe, c'est-à-dire les années 1870-1914. Au niveau européen, on a d'abord une forme de leadership, entre guillemets, français. On a l'importance notamment de la Révolution française et du Code civil comme événement, point de référence dans les discours des féministes français. Et puis ensuite, les anglo-saxonnes qui vont prendre la tête, entre guillemets, de cette effervescence féministe européenne. Alors certaines historiennes, comme Karen Hoffen, font une hypothèse qui est de dire que les cultures européennes seraient plus perméables que les autres aux revendications et aux critiques féministes. Alors ça peut être un point effectivement de discussion. En tout cas, il y a incontestablement une effervescence féministe en Europe dans cette fin du 19e siècle. Il y a une année qui est importante, qui marque un tournant, ou en tout cas un point de départ, c'est l'année 1868. Avec deux hommes féministes qu'on découvre ici. D'un côté, Léon Richer, qui est un journaliste républicain et franc-maçon, qui va fonder une revue féministe qui s'appelle Le droit des femmes. Donc c'est un homme qui fonde cette revue. Il fonde aussi un mouvement mixte féministe du même nom, qui s'appelle Le droit des femmes, donc qui est à la fois un journal et un mouvement, qu'il anime avec une féministe très importante de ses débuts, qui s'appelle Maria Derem. Et Maria Derem, eh bien, elle va rédiger un manifeste pour la revendication des droits civils des femmes, et elle va être publiée dans le journal Le Droit des Femmes, sous forme de pétition, signée par 38 femmes, dont Louise Michel. Et ce texte va rencontrer un écho important qui annonce en quelque sorte les mobilisations à venir émergentes. Et puis il y a aussi John Stuart Mill qui publie L'assujettissement des femmes en 1868. Et c'est un tournant dans la conscience féministe internationale. On fait un parallèle avec l'essor des sciences humaines, la tournure savante notamment comme Darwin qui est souvent mise en perspective. Ce que souligne en fait Mill, c'est l'importance de l'éducation des filles pour leur émancipation. L'idée que l'éducation est en fait parallèle à l'égalité des droits. Ce sont deux choses qui doivent aller de manière concomitante. C'est une formule, c'est une idée en tout cas que reprend la formule d'une militante féministe autrichienne qui s'appelle Marie von Eber-Eschenbach en 1880 et qui a cette petite phrase. Il a suffi qu'une femme apprenne à lire pour que surgisse la question des femmes dans le monde. Donc l'idée de lier l'éducation à l'émancipation. Alors, depuis sa naissance officielle, entre guillemets, dans les années 1870, le féminisme a toujours été pluriel, éclaté, voire conflictuel. On retient donc généralement trois tendances. Par ordre d'importance numérique, les réformistes, les modérés, et les radicales. Réformistes qui agissent au sein des partis et qui ont une stratégie qui consiste à pénétrer et à convaincre dans les institutions républicaines, avec ce qu'on appelle la stratégie des petits pas. Les modérés, pour qui il faut améliorer la condition des femmes sans nécessairement bousculer l'ordre socio-économique. Et puis les radicales qui sont les plus minoritaires, qui sont pour, au-delà de la question de l'égalité en droit, une transformation sociale, complètes et des méthodes qui sont de l'ordre de l'action directe et des stratégies de rupture. Cette question hein, des courants féministes est notamment détaillée dans le module Histoire des femmes et des féminismes. Mais au-delà de ces divergences, hein, de cet éclatement de ce féminisme au pluriel, il y a un dénominateur commun sur cette période 1870-1914, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, et en particulier la question du droit de vote. Ce qui divise, en fait, ce n'est pas tant les objectifs à atteindre, ce sont plutôt les modalités pratiques et la définition de ces objectifs à atteindre. L'idée donc de détruire la suprématie, l'hégémonie masculine en droit et en pratique pose une question qui est de savoir comment penser la différence des sexes, comment la penser de manière historique et sociologiquement construite. À la Belle Époque, les mouvements féministes donc vont se rejoindre autour d'un enjeu, d'une mobilisation autour des droits politiques des femmes. Avant cela, la question du droit, notamment au travail pour les femmes, a été un objet de débat, notamment en 1848. Hein, l'idée de lier le travail comme un outil d'émancipation, puisque ce serait le moyen de mener une vie digne et donc un moyen de lutter contre la misère. Mais c'est avant tout le droit de suffrage qui va fédérer au plan international des féminismes et créer donc un espèce d'espace international avec des convergences autour du droit de vote des femmes. C'est au départ une initiative française et britannique qui va ensuite être suivie et reprise en Amérique du Nord. Et donc on voit l'organisation de congrès, de circulation de traductions de textes, de pièces de théâtre, de romans. On a ainsi 34 congrès internationaux autour des droits des femmes qui se tiennent entre 1878 et 1914. Hein. Laurence Kiegemann a écrit un article entièrement consacré au congrès féministe international. Il figurera en ressources complémentaires à ce module. La Première Guerre mondiale va interrompre hein, ces dynamiques de congrès internationaux qui se tiennent à peu près une fois par an. On a ici hein, l'affiche en français d'un congrès international pour le suffrage des femmes qui se tient à Budapest, donc en Hongrie, en juin 1913, hein, pendant 5 jours, où on voit voilà un homme et une femme qui tiennent, qui portent un globe. Ces conférences, donc, qui ont lieu à peu près une fois par an, sont l'occasion de promouvoir le féminisme, d'échanger, de débattre sur les idées, sur les modalités pratiques et de créer des solidarités internationales. Alors, la question du droit de vote des femmes, c'est une dynamique à la fois du point de vue des féministes, mais aussi du point de vue des États et de leurs droits. C'est une dynamique mondiale. C'est une dynamique mondiale qui traverse ce qu'on appelle le long XXe siècle, hein, donc qui commence à la Belle Époque, qui déborde un petit peu. Le premier pays à donner des droits politiques égaux pour les femmes à ceux des hommes, c'est la Nouvelle-Zélande, en 1893. Et en Europe, le premier pays à octroyer le droit de vote et d'éligibilité pour les femmes, c'est la Finlande, en 1906. Où les femmes deviennent des citoyennes en même temps que les hommes. Le droit de vote est donné aux femmes et aux hommes en même temps en 1906 en Finlande. Cette dynamique autour du vote des femmes va connaître une accélération de l'internationalisation qui va être éclipsée par la survenue de la Première Guerre mondiale qui va à la fois suspendre les solidarités féministes internationales en grande partie, hein, elles sont rares, elles existent néanmoins à se poursuivre pendant la Première Guerre mondiale, mais ça surtout suspend et retarde l'obtention de la citoyenneté pleine et entière pour les femmes, et notamment en France, hein, puisqu'elles ne deviendront des citoyennes qu'en à partir de 1944. Alors que les hommes sont, eux, des citoyens depuis 1848. Donc il va y avoir un siècle d'écart en France entre le droit de politique pour les hommes et pour les femmes. Dans un contexte international qui est marqué par des tensions aussi, il y a trois grandes tendances auxquelles va s'affronter le féminisme. La question du pacifisme, et on l'a vu en mentionnant l'effet de la Première Guerre mondiale qui va suspendre à la fois les dynamiques féministes en partie et les dynamiques institutionnelles en faveur des droits politiques des femmes. En lien avec ce contexte, la question du nationalisme, et puis aussi le socialisme. Donc tout ça va bien évidemment avoir des conséquences et créer des difficultés pour la cause de l'égalité. Alors on a des organisations féministes internationales qui vont se créer. La toute première, qui sera éphémère en 1869, est créée à Genève, l'Association internationale des femmes. Mais elle ne va pas... elle ne va pas avoir une durée de vie très longue, mais ensuite vont se structurer trois principales organisations. La première, en 1888, c'est le Conseil international des femmes. En 1904, l'Alliance internationale pour le suffrage des femmes, qui va organiser le congrès de Budapest, dont on vient de voir une affiche. Et puis en 1915, en pleine Première Guerre mondiale, et liée au mouvement pacifiste et aux féministes qui ne souhaitent pas être dans l'union sacrée, eh bien, en 1915, c'est la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, dont on a ici l'affiche d'un des congrès qui va se tenir à Vienne en 1921. Et on remarque, au vu du type de graphisme de cette affiche, que c'est une association, une organisation qui est en lien avec les mouvements socialistes. C'est au final la petite phrase de Léon Abensur, qui est l'un des tout premiers historiens du féminisme, en 1927, qui va la rappeler. Il va rappeler à ses congénères, en 1927, « Ne l'oublions pas, il existe une internationale féministe ». Donc déjà, c'est quelque chose qui est formulé dès l'entre-deux-guerres. Après la Première Guerre mondiale, les combats féministes vont être... redynamisé dans l'entre-deux-guerres autour de la question de la citoyenneté, du droit de vote et d'éligibilité pour les femmes qui avait été mis en partie en suspens avec la Première Guerre mondiale. Donc on a un phénomène un petit peu d'essor associatif notamment à l'échelle mondiale après la première Guerre mondiale. Donc on a l'apparition de groupes féministes et féminins, qui peuvent être parfois des groupes politiques ou rattachés à une confession, qui vont se mobiliser à nouveau de manière internationale autour de la question de l'égalité des droits dans le mariage, et notamment la question de la nationalité de la femme mariée, puisque notamment en droit français, une femme qui épousait un étranger perdait sa nationalité française. Donc c'est aussi un objet de combat. Il y a aussi la question de la prostitution réglementée, le combat contre la prostitution réglementée et les maisons closes. Et puis la question du travail des femmes et de leur emploi dans le monde. Et puis, assez logiquement, en lien avec les événements des années précédentes, les combats des femmes pour la paix. Le droit des femmes à vivre dans une société en paix. Donc ces revendications à l'égalité des droits dans le mariage, la lutte contre la prostitution réglementée, le droit au travail et le pacifisme, eh bien, vont se décliner avec des initiatives internationales pour soutenir des campagnes nationales. Il y a cette articulation, mobilisation dans un pays et écho à l'échelle internationale. Alors, les trois organisations internationales de femmes que j'ai citées tout à l'heure, le CIF, l'AISF et la LIFPL, eh bien, vont converger ponctuellement sur le plan international, notamment pour faire pression sur la toute nouvelle Société des Nations, qu'on appelle la SDN, en 1920, et puis l'Organisation internationale du travail, qu'on appelle l'OIT. Ces deux institutions internationales sont nées au sortir de la Première Guerre mondiale, à la faveur des décisions du traité de Versailles de 1919 qui donc posait la fin de la Première Guerre mondiale et organisait un petit peu l'équilibre entre les belligérants pour l'avenir. Et des femmes vont d'ailleurs siéger dans ces institutions comme représentantes des États ou comme conseillères techniques dès leur création. Alors, Il y a une critique qu'on peut faire à l'histoire des femmes et du féminisme, qui est peut-être celle d'être un petit peu eurocentrée, y compris aussi pour ces mouvements féministes. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est avec l'état actuel des connaissances et que l'histoire des femmes et des féministes dans les pays occidentaux a été écrite plus tôt que celle des femmes dans les pays non occidentaux et qui est une histoire encore, en France aussi, mais plus largement dans le monde, encore en chantier. Et ça, les avancées de l'historiographie nous permettront aussi de sortir parfois un petit peu de cet eurocentrisme. Mais dans les mouvements féminismes, il y a le souci aussi de sortir de ce qu'on peut appeler un tropisme occidental, avec notamment en 1923, Houda Charaoui, qui est désignée comme vice-présidente du congrès de l'AISF, donc de l'Association internationale pour le suffrage des femmes, qui tient son congrès en 1923 à Rome et qui va désigner donc cette féministe égyptienne qui a fondé l'Union féministe égyptienne comme sa vice-présidente. On l'a ici en photo. Et donc cette volonté de sortir en quelque sorte d'un tropisme colonial et européen, eh bien, va diminuer petit à petit. Hein, ça va être difficile, mais néanmoins il y a ce souci d'être ouvert et à l'image des femmes et de leur combat dans le monde, avec la prise en compte donc de la question coloniale. Alors, la prise en compte de cette question coloniale, elle peut prendre quelque chose qui pour nous nous surprend peut-être ou peut nous interpeller. C'est notamment en 1931 l'organisation à Paris, dans le cadre de l'exposition coloniale, des étés généraux du féminisme, qui sont donc organisés par des féministes françaises. Il y a un article qui vient tout juste de sortir, hein, écrit par l'historienne Claudine Guillard, qui sera en ressource complémentaire à ce module, qui s'appelle « Être féministe en contexte colonial dans l'Algérie des années 30 », et donc qui analyse un petit peu l'engagement de l'Union, des militantes de l'Union française pour le suffrage des femmes en Algérie en situation coloniale. Donc interroger voilà cette tension entre droits des femmes en contexte colonial. Donc les droits, est-ce que c'est pour toutes les femmes ou pour certaines, est-ce que les droits doivent être les mêmes ou pas? Ce qu'explique Claudine Guillard dans ses travaux, c'est que les féministes françaises qui se réunissent en 1931 dans le cadre de ces états généraux du féminisme au moment de l'exposition coloniale, eh bien, dans leurs débats, qui sont empreints de ce qu'elle appelle un certain maternalisme colonial qui peut être plus ou moins teinté de l'idéologie racialiste de l'époque, eh bien, la spécificité de la question des femmes indigènes, c'est-à-dire des femmes qui vivent sous domination coloniale, eh bien, cette question des femmes indigènes, elle est abordée concrètement et collectivement pour la première fois, notamment dans le cas de l'Algérie. On a plusieurs travaux qui commencent à nous faire connaître cette histoire. Donc le problème, en fait, des rapports entre colonisation et féminisme européen, et entre militantes européennes et femmes indigènes, donc qui sont souvent prises en tenaille du fait de la situation coloniale, entre le désir d'émancipation, appartenance à ce qu'on appelle, entre guillemets, des traditions sociales et religieuses locales, c'est quelque chose qui est encore en chantier, hein, qui mériterait vraiment d'être étudié. Il y a des travaux récents, je pense notamment à ceux de Déborah Chéry ou de Jennifer Boitin, qui ouvrent la voie à des recherches nouvelles. En Algérie, on a aussi un exemple avec deux journaux qui sont créés dans les années 1930, La Femme Algérienne et Femme de Demain. Le journal algérien Femme de Demain est animé par Lucienne Jean Darouy, qui est elle-même une militante et qui est membre du bureau de l'Union des Françaises pour le suffrage des femmes à Alger et qui va être en quelque sorte le relais de l'Union des Femmes et de l'Union des Françaises pour le suffrage des femmes autour des questions féministes entre la métropole, la France métropolitaine et l'Algérie. Il y a d'ailleurs des projets politiques qui sont élaborés autour de la question du suffrage des femmes en métropole ou de la condition des musulmanes qu'on retrouve dans les pages de ces journaux. En 1932, à l'initiative de Germaine Malater-Sarrier, qui est une militante féministe, suffragiste, réformiste importante, eh bien, se tient à Constantine, toujours en Algérie, en 1932, le premier congrès des femmes méditerranéennes, avec le souci d'essayer de faire entrer en dialogue les femmes des deux côtés de la Méditerranée, c'est-à-dire des femmes métropolitaines françaises et des femmes qui vivent sous domination coloniale. En lien avec ces congrès internationaux qui posent aussi la question coloniale, notamment le Conseil international des femmes va s'investir massivement dans la lutte contre la prostitution réglementée et la traite des êtres humains, ce qu'on appelle, entre guillemets, la traite des blanches. Alors, certaines historiennes considèrent que cette présence française dans des réseaux internationaux et aussi dans des institutions internationales, hein, comme l'OIT ou la Société des Nations, c'est en quelque sorte une énergie du désespoir, une forme détournée de participation à la politique nationale, d'où les Françaises sont exclues jusqu'en 1944. Parce que le droit de vote des femmes est une dynamique mondiale, mais la France est en retard de ce point de vue. Il y a un effet de Première Guerre mondiale très net dans l'obtention du droit de vote et d'éligibilité pour les femmes. C'est-à-dire qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, des pays comme l'Allemagne, l'Arménie, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, le Canada, la Hongrie, la Pologne, la Russie, la Tchécoslovaquie, puis les États-Unis, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède, eh bien, vont faire des femmes des citoyennes politiques au même titre que les hommes. Et cette dynamique Première Guerre mondiale perdure dans les années 20-30, mais la France en reste à l'écart, et des pays comme l'Albanie, l'Irlande, la Mongolie, l'Équateur, le Brésil, la Thaïlande, Cuba, la Roumanie, la Bulgarie ou encore le Salvador, eh bien, vont faire là encore des femmes des citoyennes politiques au même titre que les hommes. Mais les Françaises restent sur la touche. Pourtant, dans le cas de la France, on a ce qu'on appelle l'un des paradoxes à la française en 1936 avec la nomination de 3 femmes dans le gouvernement de Front Populaire de Léon Blum. Ces 3 femmes, Suzanne Lacor à la santé publique chargée de l'enfance, Irène Joliot-Curie qui est la fille de Pierre et Marie Curie, physicienne, et bien chargée, secrétaire d'État chargée de la recherche scientifique, et surtout, on l'a ici à droite sur l'écran, Cécile Brinjvic qui est nommée sous-secrétaire d'État à l'éducation nationale en 1936. Et Cécile Brinjvic, c'est une militante suffragiste et féministe extrêmement importante, qui est à la tête du Conseil national des femmes françaises, qui est une des principales organisations féministes et suffragistes françaises, eh bien, rentre au gouvernement de Léon Blum. Alors, ce paradoxe à la française, c'est parce que les femmes ne sont ni électrices ni éligibles, mais dans la loi, rien n'interdit de nommer des femmes dans les instances de décision politique. Avant cela, même dès 1925, on va avoir un autre paradoxe. Des femmes vont être alors élues conseillères municipales, notamment à Douarnenez, dans le Finistère, en Bretagne, sur consigne de l'international socialiste, sur consigne de Moscou. Il fallait présenter des femmes aux élections. Ces femmes ont été élues par les hommes, ont pu siéger, mais ont ensuite été invalidées par la justice administrative. Mais des femmes vont aussi être nommées conseillères municipales, donc non élues, dans plusieurs communes en France, aussi différentes que Versailles, qui est quand même une ville plutôt bourgeoise et traditionnelle de droite, ou dans une ville comme Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, qui est gérée par des communistes. Donc on a voilà ces paradoxes à la française, qui sont donc en décalage avec ce qu'on observe dans d'autres pays. On a des femmes qui vont être nommées en étant des citoyennes politiques à part entière, comme au Danemark, qui deviennent donc ministres. Nina Bang, qui devient donc ministre de l'éducation danoise en 1924. Ou Margaret Bonfield, qui devient ministre du Travail au Royaume-Uni en 1929. Parallèlement aux mobilisations et aux combats pour l'obtention de l'égalité politique entre les femmes et les hommes, les féministes vont aussi se mobiliser autour de la question du travail des femmes et du droit au travail pour les femmes, notamment au sein d'une structure donc qui a été créée à la fin de la Première Guerre mondiale, qui s'appelle l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Alors, dans la charte de l'OIT, est posé le principe du salaire égal, sans distinction de sexe, pour un travail de valeur égale. C'est l'article 427 du traité de Versailles. Et le Bureau international du travail qui est installé à Genève va voir en son sein plusieurs femmes engagées pour défendre le droit au travail des femmes et à l'égalité salariale. Un des apports importants de l'OIT au départ, pour les femmes qui sont engagées à l'intérieur, c'est de concevoir le féminisme comme un humanisme. Et à travers cette philosophie humaniste, dans les organisations internationales nées après la Première Guerre mondiale, eh bien, il y a une obligation qui est faite, qui est celle de compter les femmes. Donc de visibiliser, de savoir, d'obtenir des statistiques sur les femmes au travail et de débattre aussi de cette question. Si des femmes sont engagées au sein de l'OIT, les organisations internationales en faveur du travail des femmes, cela pose néanmoins des questions. Il y a des tensions très fortes qui peuvent exister entre féministes sur les stratégies, les moyens et les objectifs à atteindre, notamment faut-il protéger les mères ou plutôt s'inscrire dans une dynamique d'égalité totale entre les hommes, quitte à ce que ce soit dans des conditions de travail pénibles. On peut aussi mentionner une critique récurrente de la part de l'Église catholique à l'égard du travail des femmes, et notamment le pape Léon XIII, qui, dans un texte de 1891, réaffirme son hostilité au travail des femmes en expliquant que par sa nature même, la femme est destinée aux ouvrages domestiques. On observe aussi des attaques contre le travail des femmes à l'échelle internationale. C'est notamment l'un des effets de la crise économique déclenchée en 1929. Et donc cette crise des années 30 va remettre en quelque sorte en question le droit au travail des femmes. Et je renvoie pour ça au très beau travail de Céline Chauny sur le retour à l'ordre et les offensives contre le travail des femmes durant la crise économique des années 30 en France et en Suisse. C'est un travail absolument remarquable. Alors, la crise donc des années 30 remet en question ce droit au travail des femmes, avec également, outre des arguments économiques, le classique en disant les femmes prennent le travail des hommes, et bien des arguments en faveur de la natalité, c'est-à-dire que le chômage est utilisé comme justification au retour des femmes mariées au foyer, et avec l'idée en plus que cela permettra des foyers avec davantage d'enfants, une meilleure natalité. Alors que les femmes et les féministes qui travaillent, notamment à l'OIT, vont démontrer pourtant que l'emploi des femmes n'a pas beaucoup augmenté depuis le début du XXe siècle. C'est-à-dire que le taux d'activité des femmes, qui était déjà élevé en France en particulier au début du XXe siècle, eh bien, n'a pas changé. Il restait finalement un petit peu augmenté, mais pas de manière spectaculaire. Mais par contre, que ce qui a changé dans les années 30, c'est que le travail des femmes, en fait, quelque sorte, était redistribué. Les femmes ont changé de type d'emploi, notamment avec l'explosion du secteur tertiaire dans lequel les femmes sont devenues majoritaires et le sont encore aujourd'hui. Alors le Bureau international du travail a un rôle important à jouer. Et ce rôle important à jouer, il est notamment dû à l'engagement, l'investissement qui n'est pas spectaculaire en termes de visibilité, mais qui est extrêmement important en interne. Ce rôle, c'est celui joué par les expertes du travail féminin, et je peux en citer deux notamment. Marguerite Thibert, donc, qui est une Française sur laquelle a notamment travaillé Françoise Thébault, qui a donc fait toute sa carrière au sein du Bureau international du travail et qui s'est toute sa carrière intéressée et a défendu et étudié et analysé et comptabilisé les femmes en situation de travail. Et puis une Belge, Émilienne Brinfaut, qu'on découvre ici sur un timbre-poste édité par la Poste belge en 1990. Émilienne Brinfaut est décédée en 1986. Et donc à l'occasion, on le voit sur ce timbre-poste, de la Journée internationale des femmes, eh bien la Poste belge a édité un timbre en hommage à cette militante du travail des femmes et de leur position professionnelle. Ce qu'explique en fait Céline Chauny dans son travail, c'est qu'elle met l'accent sur le rôle justement du Bureau international du travail, de ces fameuses enquêtes statistiques, de ces rapports dans la mise en perspective des différentes politiques nationales. Et elle insiste aussi sur le rôle des associations féministes pour la défense de la place des femmes sur le marché du travail, notamment dans la fonction publique, qui ont été l'objet de plusieurs recherches. Donc à Genève, dans les locaux du Bureau international du travail, eh bien, vont s'élaborer des normes, des résolutions et des conventions sur le travail des femmes qui peuvent être d'ailleurs en quelque sorte avant tout des principes ou des vœux pieux en matière d'égalité des sexes, puisque ces recommandations sont loin d'avoir été suivies, mais néanmoins il y a cette parole qui est portée par une institution internationale. Les circulations des idées féministes sont aussi extrêmement importantes, notamment les liens entre le BIT, le Conseil international des femmes et une autre organisation féministe qui s'appelle l'Open Door International, qui est centrée sur le travail des femmes et la question de l'égalité professionnelle. Alors, ces organisations, elles ont souvent une vision qui est marquée par une vision de la complémentarité des sexes, mais aussi par la vitalité du mouvement de défense de la place des femmes sur le marché du travail, en particulier dans un secteur tertiaire qui est en perpétuelle expansion. Et au-delà des frontières des États, eh bien, on voit aussi comment la question des femmes, de la place des femmes dans la société, est en lien direct avec le contexte économique, bien plus qu'une question purement nationale. C'est plutôt un enjeu planétaire qui va bien évidemment s'accroître avec l'essor de la mondialisation. Il y a donc en fait une forme de circulation internationale des idées féministes sur la question du travail, en lien avec le Bureau international du travail à Genève, le Conseil international des femmes et une autre association qui s'appelle l'Open Door International. Alors, mot à mot, ça veut dire la porte ouverte, et c'est l'idée d'une porte ouverte aux femmes dans le monde pour l'accès aux responsabilités, dans le monde politique, mais aussi dans le monde économique. L'Open Door International a beaucoup centré son activité sur la question du travail des femmes et de l'égalité professionnelle. La question du travail des femmes, elle est posée par les enquêtrices hein, comme Marguerite Thibert ou Émilienne Brinfaut au Bureau international du travail à Genève, en lien avec des associations internationales. Donc il y a vraiment une circulation internationale des idées féministes autour de cette question du travail féminin, associations comme le Conseil international des femmes ou l'Open Door International. Alors l'Open Door International, mot à mot si on le traduit, ça veut dire la porte ouverte, et c'est une association internationale comme son nom l'indique, qui a eu le souci de promouvoir les femmes dans toutes les sphères de la société, et en particulier dans la sphère économique et professionnelle. Et donc c'est cette espèce de dialogue entre le BIT, le Conseil international des femmes et l'Open Door International, eh bien, a débouché sur des formes de reconnaissance et de légitimation et d'alimentation mutuelle entre des revendications et les préconisations du BIT. Alors, ces associations ont une vision qui est souvent marquée hein, par l'idée d'une complémentarité entre les sexes, mais également l'idée qu'il faut défendre la place des femmes sur le marché du travail, et notamment dans le secteur tertiaire qui est en pleine expansion et dans lequel les femmes deviennent majoritaires et qui devient le principal secteur d'emploi féminin. Et au-delà des frontières des États, avec cette circulation entre les institutions internationales et les associations féministes, eh bien, on voit comment la question de la place des femmes dans la société est une affaire en fait qui est liée au contexte économique et social dans une perspective mondiale, bien plus qu'une question purement nationale. À travers le temps, au XIXe et XXe siècle, ce qu'on observe en fait, c'est une double permanence qui se reconfigure selon les contextes et jusqu'à aujourd'hui. D'une part, des divisions entre les tendances et les organisations féministe, pas tant sur les objectifs à atteindre que sur les modalités d'action. Et puis d'autre part, des tensions entre féministes dans leur rapport aux institutions qui sont à la fois considérées comme des sources de progrès pour les droits des femmes et en même temps des lieux et des responsables de maintien des inégalités par manque de volonté politique de ces institutions.